franceinter.fr. Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. L'enquête sera difficile à Mias après la collision de jeudi soir entre un TER et un car scolaire qui a fait 5 morts, 5 collégiens, 6 autres gravement blessés. Les investigations se poursuivent. La SNCF et la société d'autocars se renvoient la balle. Les Pyrénées-Orientales sont en deuil. Des ministres plutôt bien lotis, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a publié les patrimoines des membres du gouvernement où l'on constate que les ministres issus de la société civile sont très nettement en tête de liste. Dans ce journal également, la fin d'une histoire à Colombes, où le stade Yves du Manoir accueillera tout à l'heure le dernier match du Racing. Mieux aider les aidants, c'est l'objet d'une proposition de loi qui veut élargir les dons de congés au bénéfice des proches en charge d'une personne âgée ou d'un handicapé. C'est le droit de suite de ce samedi 13h, avec également la prescription culture d'Isabelle Pasquier qui nous emmènera à Lima, l'Institut du Monde Arabe à Paris. Défaillance technique ou erreur humaine à Mias, c'est maintenant la seule question qui vaille. Après le terrible accident de jeudi soir sur un passage à niveau, la collision entre un TER et un car de transport scolaire a fait 5 morts, 5 collégiens et 15 blessés, dont 6 en urgence absolue. Les témoignages sont contradictoires, la plupart évoquent des barrières fermées. Mais la conductrice du car a dit à son employeur avoir traversé la voie ferrée en toute confiance. Barrières ouvertes et feux clignotants éteints. Le procureur de Marseille, spécialisé dans les accidents collectifs, est attendu sur les lieux, Frédéric Bourgade.
C'est une journée importante pour l'enquête, car le procureur de Marseille, chargé de l'affaire, est attendu sur le passage à niveau où a eu lieu le drame. Il doit venir constater de visu la géographie de l'endroit pour comprendre l'enchaînement des faits. Il pourra aussi constater la violence et les dégâts du choc, puisque le train accidenté est toujours là, un peu plus loin sur la voie ferrée. Par contre, le bus a été enlevé hier après-midi, après les constatations des enquêteurs. Il ne reste que des bris de verre au sol et quelques sièges de l'autocar dans la cabine d'un camion de transport. Ce matin, en préfecture, le procureur aura sans doute aussi rencontré des responsables de la SNCF. Autant d'éléments utiles pour l'éclairer de manière technique sur le fonctionnement des barrières et du signal lumineux qui aujourd'hui font polémique. En plus des témoins, des experts, des constats techniques des gendarmes, le procureur de Marseille pourra également compter sur la modélisation 3D de l'accident pour documenter techniquement les circonstances de ce drame. Mias, Frédéric Bourgade, France Inter.
L'enquête sera probablement très longue. La SNCF et la société d'autocars se renvoient la balle, faute de preuves. Et même si les moyens techniques d'investigation ont beaucoup progressé, la vérité sera difficile à établir. Comme l'explique l'avocat Maître Dreyfus, avocat de l'association Sourire des Anges, créée en 2008 après l'accident d'Allinges, en Haute-Savoie. L'accident entre un car scolaire et un TER avait fait 7 morts, 7 enfants âgés de 13 ans. Pour lui, pour Maître Dreyfus, mieux vaut rester prudent dans les commentaires. Il est au téléphone de Matteo Maestracci.
Le temps entre la catastrophe et le jugement, ce fut exactement 5 ans, ce qui a été relativement rapide, mais nécessaire. En l'espèce, on le sait, il y a 3 enquêtes qui vont être menées, celle du BEA, Bureau Enquête Accident Transport Terrestre, l'enquête interne de la SNCF, et j'ai toujours un petit peu peur de ces enquêtes internes. Donc, je crois qu'il faut faire surtout confiance à la justice, et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire qu'à la suite de l'enquête préliminaire, ce qui est fait actuellement avec la section de recherche de Montpellier sous l'égide du procureur de la République de Marseille, il va y avoir très vraisemblablement, dans les jours qui viennent, l'ouverture d'une information judiciaire, la désignation de juges d'instruction, la désignation d'experts judiciaires et de longues mesures d'investigation pour arriver à la cause la plus précise, celle que l'on doit aux familles, parce que la justice, face au drame, ne peut pas apporter grand-chose en termes de réparation, mais elle doit au moins apporter la réparation par la rigueur et l'excellence quant à la causalité.
Et en attendant, quels que soient les résultats de l'enquête, ça ne changera rien à l'immense émotion qui a saisi tout le pays et d'abord toute une région. À Perpignan, où les illuminations ont été éteintes en soirée, des habitants se sont rassemblés tout à l'heure devant l'hôtel de ville pour observer une minute de silence. Demain, c'est à Saint-Félu d'Aval, tout près de Mias, dont les enfants étaient originaires, qu'aura lieu un rassemblement silencieux devant la mairie.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
C'est désormais une tradition, une obligation même pour les membres du gouvernement qui doivent rendre public leur patrimoine et c'est chose faite depuis hier soir. Après un long travail de vérification, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a publié la liste des biens mobiliers et immobiliers de chacun, où l'on vérifie que certains ministres sont plutôt bien lotis, notamment ceux qui sont issus de la société civile. Et ce n'est pas un reproche, juste un constat. Muriel Pénicaud, ex-DRH chez Danone, affiche un patrimoine de 7,7 millions. Nicolas Hulot, avec 7,3 millions, fait aussi figure de privilégié. Mais surtout, Béatrice Duguay, compte tenu de sa personnalité et de ses combats pour l'écologie, on est surpris de ses penchants pour les motos, voitures et autres bateaux, ce qui ne va pas manquer de faire polémique.
Au-delà de la simple somme déclarée, effectivement, ce sont peut-être ces quelques biens matériels symboliques qui pourront surprendre le grand public. Bateaux, motos, effectivement, et 6 voitures pour le ministre de la Transition écologique, dont une vieille Land Rover et une vieille Peugeot, mais aussi quand même une hybride et puis un scooter électrique. Patrimoine immobilier également, maison de bonne surface en Corse, en Bretagne, en Haute-Savoie. Des biens de famille pour certains, pas forcément détenus en totalité. Nicolas Hulot est également riche de sa société Eol, dont il détient 99% du capital. Il en est l'unique salarié, société qui encaisse ses droits d'auteur sur les multiples reportages, documentaires réalisés, ainsi que les royalties des produits dérivés de la marque Ushuaïa. En entrant au gouvernement, il a abandonné la gérance d'Eol, il l'a transformée en société à actions simplifiées. Il en reste le propriétaire. Comme le veut la loi, il a dû confier ses actions à une tierce personne en prenant l'engagement de ne pas donner d'instructions quant à leur gestion pendant la durée de son mandat. Règle éditée évidemment pour éviter tout délit d'initié. Alors, il y a plusieurs manières de lire cette déclaration, comme celle d'onze autres ministres millionnaires du gouvernement, soit de les percevoir comme très riches et à ce titre très loin du revenu, donc de la réalité de la plupart des Français, soit comme des personnes qui mettent leur carrière entre parenthèses quelques années pour s'occuper des affaires de l'État.
Alors les ministres issus de la société civile sont donc un peu plus riches que les professionnels de la politique, c'est un constat. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, affiche un patrimoine de plus de 5 millions. 1,5 million pour le Premier ministre, 1 million pour Christophe Castaner, ministre et patron d'En Marche. Le moins bien loti, si j'ose dire, étant, ça ne s'invente pas, le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Il possède un terrain non constructible dans le Nord, 30 000 euros estimés et un peu plus de 8 000 euros à la Banque Postale. Déclaration de patrimoine à consulter sur le site de la Haute Autorité ou bien sûr sur franceinter.fr. Le patrimoine du Modem, là c'est essentiellement François Bayrou, à sa tête depuis 10 ans. Le président fondateur du mouvement qui vient d'être reconduit pour un nouveau mandat, le Modem qui tient son congrès à Paris ce week-end et qui reste plus que jamais engagé dans la majorité, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être la cinquième roue du carrosse, comme l'a précisé ce matin sur France Inter le député Jean-Louis Bourlange.
Je crois que ça serait une très grave erreur d'Emmanuel Macron d'identifier son avenir politique à un seul parti, parti composite en plus, qui comprend des gens de droite et des gens de gauche, et qui ne se réunissent que sur la personne et les idées d'Emmanuel Macron. Ce qui est très bien, mais ce qui fait que Emmanuel Macron sera en première ligne. Moi je crois qu'il est important qu'il y ait au cœur de la majorité une aile socio-libérale, qui est un peu celle des constructifs, qu'il y ait ce groupe démocrate chrétien élargi qu'est le Modem, et qu'il y ait également une social-démocratie que Valls pourrait chercher à organiser.
Donc l'avenir du Modem, c'est de se contenter d'être une force d'appoint, hein, c'est bien ça?
Oui, mais une force d'appoint, je ne sais pas si En Marche n'est pas non plus une force d'appoint, si je puis dire. Il y a un problème de respiration.
En Marche, c'est à la manœuvre.
Mais où ils obéissent.
Il y a
vraiment un problème de respiration de la vie parlementaire dans ce pays.
Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Éric Delvaux ce matin sur France Inter. En Autriche, affaire conclue entre la droite et l'extrême droite, le patron des conservateurs, Sébastien Kurz, vainqueur des dernières élections, a présenté ce matin au chef de l'État son accord de gouvernement avec le chef du FPÖ, Heinz Christian Strache. Le nouveau chancelier qui prendra ses fonctions lundi sera donc à 31 ans le plus jeune dirigeant de la planète. Et surtout avec lui, l'extrême droite signera son retour au pouvoir à Vienne 18 ans après la première expérience. Elle devrait disposer cette fois, l'extrême droite, de 3 ministères régaliens, dont l'intérieur et les affaires étrangères. C'était il y a 2 ans. L'Assemblée votait une loi d'adaptation de la société au vieillissement. Une loi qui prévoyait entre autres un droit au répit pour les aidants, un congé du proche aidant, en prolongeant en quelque sorte la loi Matisse de 2014 du nom de cet enfant qui souffrait d'un cancer du foie et dont le père avait pu s'occuper jusqu'au bout grâce au RTT donné par ses collègues. Une solidarité qui a donc été légalisée et que voudrait étendre à nouveau le législateur en élargissant les dons de congés à tous les aidants, aidants d'enfants mais aussi de personnes âgées ou de handicapés. C'est le droit de suite de ce journal signé Lola Fourmi.
François a 58 ans. Il est chef d'entreprise et père de 4 enfants, mais il fait aussi partie des 11 millions de Français que l'on appelle les aidants.
C'est justement, c'est elle.
Sur cette photo, Jonie, sa sœur aînée, Béatrice, handicapée mentale et moteur depuis la naissance, François s'en occupe régulièrement et sur son temps de travail. Alors ce don de RTT, pour lui, c'est une bonne idée.
C'est plus confortable de bénéficier d'un cadre où, effectivement, on a un temps qui est alloué, qui est officiel, il n'y a pas justifié, que d'expliquer à son boss qu'on est obligé de partir 2 heures avant de la fin de journée pour aller gérer un problème d'une sœur qui est handicapée. Ça oblige à expliquer aux uns et aux autres l'environnement familial que peut-être pas tout le monde est prêt à entendre.
Sauf qu'avec la loi actuelle, la loi Matisse, François ne peut pas bénéficier du don de RTT parce que la personne dont il s'occupe n'est pas son enfant. Avec le projet de loi validé à l'Assemblée début décembre, il pourrait par contre être concerné dans les prochains mois. Ce projet de loi, c'est le député centriste du Nord, Paul Christophe, qui l'a porté.
Alors, il concernerait tout salarié en situation donc, d'avoir un proche en perte d'autonomie lié à une pathologie associée au vieillissement ou alors au handicap. À la différence du congé de proche aidant qui est non rémunéré, lorsque vous êtes en situation de RTT ou de congé, vous bénéficiez encore de votre rémunération.
Pourtant, dans l'hémicycle, les élus communistes et insoumis se sont abstenus. Certains craignent que l'employeur se défausse sur les salariés pour assurer la solidarité. Tout est une question de dosage, répond Florence Leduc. Elle est présidente de l'Association française des aidants.
Et donc de rééquilibrer les choses entre la solidarité nationale avec les droits divers et variés, la solidarité de l'entreprise et la solidarité, mais il faut que ça soit plus équilibré que ça ne l'est aujourd'hui.
Et certaines entreprises ont déjà intégré le don de RTT dans leur statut. Des compagnies d'assurance ont même décidé d'abonder, c'est-à-dire que quand un salarié reçoit un don de RTT, l'entreprise lui en offre un deuxième.
Et la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur au premier trimestre 2018. Invité de ce droit de suite, Charlotte Lecoq, députée du Nord, membre de la Commission des affaires sociales. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez fait devant la Commission le bilan de 2 années de cette loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui passe par une plus grande considération des aidants familiaux, plus de 8 millions de personnes en France, hein, qu'il s'agisse d'aider les personnes âgées ou bien des enfants. C'est le même problème, il reste beaucoup à faire pour elles, pour ces personnes.
Oui, c'est ça, vous avez raison. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que la loi d'adaptation de la société au vieillissement a permis en tout cas déjà une première étape qui est la reconnaissance du rôle des aidants. D'abord en leur donnant une définition, ce qui était un élément très important. Et aussi en intégrant un droit au répit qui doit permettre de reconnaître aussi parfois la lourdeur de la tâche, la lourdeur de la mission, le besoin d'avoir aussi un petit peu de temps pour soi, pour se ressourcer.
Et alors un droit au répit qui est très peu utilisé.
Oui.
Hein.
Oui, c'est ça. Donc avec ma collègue Agnès Firmin-Lebaudeau, on a donc présenté le rapport d'application de cette loi la semaine dernière en commission des affaires sociales, devant la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Et effectivement, un des constats qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, ce droit au répit est encore peu utilisé. On a identifié certains freins, notamment le fait que pour pouvoir avoir accès à ce droit au répit et qu'il soit financé, il est nécessaire que le plan d'aide, c'est-à-dire l'ensemble des actions qui vont être financées pour permettre l'autonomie de la personne âgée, soit saturé. Donc, or, il est rarement saturé puisque l'APA a été augmentée et donc ça pose cette première difficulté. Donc nous avons fait notamment la proposition de lever cette obligation de saturation du plan d'aide pour faciliter l'accès au répit.
Alors quand on voit que ce droit est très peu utilisé et qu'aujourd'hui on veut étendre la loi à tous les aidants, quelles que soient les personnes concernées, on se dit que ça va être compliqué à mettre en œuvre.
Oui, il y a des choses qui sont encore compliquées à mettre en œuvre parce que effectivement, il faut aussi pour ce droit au répit, on puisse avoir un établissement qui peut accueillir la personne âgée au bon moment, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pareil aussi, la problématique peut se retrouver pour les personnes handicapées. Donc on a encore à trouver d'autres solutions. Il y a notamment une solution qui vient du Canada, qui est la solution du baluchonnage, qui aujourd'hui en France n'est pas faisable pour des limites en termes de réglementation de droit du travail.
Oui, c'est-à-dire qu'on remplace pendant 2 ou 3 jours la personne aidante par un professionnel à domicile.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas possible, ou alors c'est avec un coût très important si on veut que se succèdent à chaque fois des personnes pour ne pas dépasser une amplitude de travail trop élevée. Mais dans le cadre du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance qui est en train d'être travaillé, il y a une expérimentation qui va être mise en place pour permettre de tester ce baluchonnage et voir comment on peut le mettre en place en France.
Voilà, avec quelques dérogations au Code du travail.
Ben, il faudra certainement qu'on fasse évoluer effectivement notre Code du travail pour permettre à cette mesure de se mettre en place efficacement.
Alors reste à définir aussi, Charlotte Lecoq, un statut de l'aidant. Hein. Un de vos collègues est chargé d'y réfléchir. Un aidant, ce n'est pas forcément un membre de la famille.
Oui, tout à fait. C'est aussi un proche. Ça peut être aussi une personne qui a des liens de proximité forts avec la personne aidée. Mais ça, c'est déjà plutôt intégré dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est assez salué aussi par les associations. Maintenant, effectivement, c'est un sujet qui interpelle vraiment l'ensemble des députés et des parlementaires, quel que soit finalement le parti politique. Et donc, la commission des affaires sociales a décidé de mettre en place une mission flash sur les aidants, qui va être conduite par Pierre Dharréville, enfin, qui est en cours, et qui doit nous permettre aussi de faire émerger d'autres pistes de solutions pour continuer de soutenir les aidants.
Merci beaucoup.
L'enjeu, oui.
Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Charlotte Lecoq, députée du Nord, membre de la Commission des Affaires Sociales. Merci beaucoup. La fin d'une époque à Colombes, où le Racing jouera tout à l'heure son tout dernier match au stade Yves du Manoir, Racing-Castres. Un match d'ailleurs décisif pour les Parisiens s'ils veulent se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Europe. Mais l'équipe des Ciels et Blancs va tourner une longue page d'histoire de ce stade mythique aux portes de Paris, où jouait autrefois l'équipe de France jusqu'en 72, où sont passés aussi les JO de 1924 et même un certain Pelé en 63, sans oublier évidemment quelques stars du rugby d'hier et d'aujourd'hui, Vincent Pellegrini.
De tous les joueurs du Racing, c'est lui qui incarne le mieux le club ciel et blanc. Henri Chavancy a découvert le rugby à l'âge de 11 ans. Depuis 18 années, le trois-quarts centre international porte le maillot du Racing. Au stade de Colombes, il était chez lui.
C'était ma deuxième maison. C'est vrai que dès que je franchissais les portes du complexe, je me sentais comme chez moi. Je connaissais bien tout le monde finalement, les gardiens, toutes les personnes qui gravitent autour de ce complexe. Donc ouais, c'est vrai que ça fera drôle. Personnellement, c'est vrai que ce stade va beaucoup me manquer.
Henri Chavancy au micro de Jérôme Val. Même s'il a été en partie réhabilité pour s'adapter aux normes en vigueur, le stade de Colombes reste une enceinte vétuste, mal desservie par les transports en commun, mais où le passé respire encore. Car bien avant le Parc des Princes et le Stade de France, c'est bien Colombes qui était l'épicentre du sport français, rappelle le talonneur du Racing, Dimitri Zarzewski.
Pour moi, ça a toujours été un stade historique, avec les Jeux Olympiques qui ont été aussi accueillis et nos différentes équipes de France qui ont pu évoluer sur cette pelouse. On sent vraiment qu'il y a une âme et beaucoup de personnes aimaient vraiment se retrouver dans ce stade. C'était un petit peu tout un côté champêtre un petit peu, où il pouvait être aussi proche des joueurs, notamment à la sortie des vestiaires. Donc c'est un petit peu vétuste, un petit peu rustique, mais on aime bien cette odeur, on sent que vraiment il y a une âme dans les murs.
Il y aura donc un parfum de nostalgie cet après-midi au vieux stade Yves du Manoir, et les joueurs du Castres Olympique savent que pour ce match historique, l'adversité sera de taille.
Et parmi les stars ayant joué à Colombes, on n'oubliera pas bien sûr le dernier en date, Dan Carter. La prescription culture du week-end. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et en voiture Isabelle, dans votre ordonnance du samedi, vous nous parlez d'une bonne vieille 4L, une voiture que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, une Renault 4, dont un livre retrace l'incroyable périple. Depuis quelques jours, elle accueille les visiteurs d'une très belle exposition sur les chrétiens d'Orient. C'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Cette 4L toute cabossée
José vient de vivre une incroyable aventure humaine. Elle a parcouru 22 pays, du Liban à l'Irak, au Caucase, en passant par l'Afghanistan et l'Égypte, à la rencontre des chrétiens d'Orient, plus que jamais menacés par la guerre et le terrorisme. Au volant, Vincent Gelot, tout seul pour parcourir ses 60 000 kilomètres, il publie l'histoire de ses rencontres dans un magnifique ouvrage, Chrétiens d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé, chez Albin Michel. Alors pendant ce voyage qui a duré 2 ans, Vincent Gelot a recueilli de poignants témoignages dans un livre clandestin qui est exposé actuellement à l'Institut du Monde Arabe.
Le livre d'Orient était un bel ouvrage comme un grimoire vierge qui était caché dans le siège avant de ma 4L et dans lequel je récoltais les témoignages des chrétiens rencontrés au fil de la route. Bien évidemment, en entrant en Iran, en Afghanistan ou au Yémen, je ne disais pas que j'allais voir les chrétiens. Donc cet ouvrage était clandestin et il a pris une dimension phare au fur et à mesure des mois. Parce que d'abord, il était comme un relais de communauté en communauté, de pays en pays, d'hommes et de femmes qui se retrouvaient maillons d'une chaîne de personnes qui étaient bien sûr de pays différents, de cultures différentes, de langues différentes, mais qui étaient tous chrétiens. Et ce livre apportait beaucoup de joie. Vous imaginez qu'en arrivant, par exemple, dans une petite communauté chrétienne, mettons en Afghanistan, à Kaboul, eh bien là-bas, les gens découvraient à travers ce livre toutes les communautés chrétiennes qui les avaient précédées jusqu'à elles. Donc des témoignages de chrétiens du Liban, d'Irak, de Turquie, de Géorgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, etc. jusqu'à eux. Donc ça, c'était une bombe de joie.
Et cet après-midi, à 16h, sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe à Paris, 3 chorales orientales chrétiennes de Paris vont venir interpréter leur plus beau chant de Noël.
Et puis une exposition sur les chrétiens, une exposition donc sur les chrétiens d'Orient jusqu'au 14 janvier. Et puis Isabelle, un livre pour les 15 à 99 ans, livre consacré à 50 ans de chansons françaises.
Ce livre est signé par le grand photographe Claude Gassian. Après avoir shooté avec grâce les Cohen, Lou Reed et autres Stones, Claude Gassian se penche cette fois sur la scène hexagonale, 250 photos qui captent des moments, des expressions rares, assez loin quand même des photos sophistiquées pour les promos d'artistes. Brel très timide, Miossec en plein fou rire, gros plan sur les mains de Johnny, Bachung hors temps, Dao encore ado, avec des textes de Dominica. C'est beau, très beau.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté.
50 ans de chansons françaises, photos de Claude Gassian, le bon conseil d'Isabelle Pasquier.
Merci à vous Yves Decamp, on vous retrouvera ce soir bien sûr pour le 19h, mais tout de suite les couleurs du temps avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo, avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Des éclaircies souvent larges à l'ouest cet après-midi, mais sur la moitié est, à partir de la frontière belge, l'est du bassin parisien, du centre et du massif central, en allant vers les Vosges, le Jura et les Alpes. Le maintien sur cette partie du pays cet après-midi d'un ciel chargé d'averses avec de la neige à basse altitude en montagne, y compris sur les Pyrénées et le relief corse. Et puis attention au risque de départ d'avalanche sur le massif alpin. Autour de la Méditerranée, le vent à 90 km à l'heure va tenir les nuages à l'écart. Ce soir, des pluies vont arriver par la Manche. Demain, elles vont glisser vers les Pyrénées, le massif central et Rhône-Alpes, en maintenant une journée bien grise sur les trois quarts du pays et donner quelques flocons au passage la nuit prochaine jusqu'en plaine et demain à partir de 600 mètres. Les bords de la Méditerranée vont conserver du soleil et du vent. Les températures à peine dans les moyennes en journée vont souvent tomber entre 0 et moins 2 degrés en campagne la nuit prochaine. On se méfiera donc des chaussées glissantes.